Place Info.
Bonjour Clémentine Autain.
Bonjour.
Près de 100 femmes tuées depuis le début de l'année par leur mari ou leur compagnon, on fait quoi ?
Alors d'abord, je voudrais saluer la mobilisation qui est en cours autour d'Eva Darlan et pas seulement, parce que c'est un moyen d'abord de briser le silence sur ce sujet qui était un sujet tabou. Des femmes meurent en nombre par centaines chaque année parce qu'elles subissent d'abord du harcèlement, des violences conjugales et un jour, il y a un coup de trop qui fait qu'elles meurent. Elles meurent dans ce cadre de violence qui est d'abord une violence psychologique, puis ensuite une violence physique qui peut conduire à la mort. Donc je suis d'abord contente que ces mobilisations permettent qu'on en parle aujourd'hui. La difficulté devant laquelle on est, et c'est pas simplement sur les féminicides, c'est sur l'ensemble des violences faites aux femmes, c'est que le gouvernement qui est empêtré dans ses logiques d'austérité est incapable de mettre sur la table des moyens humains qui permettent d'accompagner ces femmes en amont. Ça touche beaucoup de domaines, ça veut dire former les personnels qu'elles peuvent être amenées à rencontrer sur ces questions spécifiques de violence conjugale, mais c'est aussi être capable de trouver un logement à ces femmes quand elles ont une fenêtre de tir pour partir. Et je peux témoigner en tant qu'élue de Seine-Saint-Denis pour avoir interpellé à plusieurs reprises la préfecture, tous les services compétents quand une femme venait me voir, qu'elle se sentait en danger, qu'elle était prête à partir et de ne pas trouver de solution pour pouvoir loger cette femme. Donc
c'est un problème donc d'argent, quelque part, de logement ou de réactivité.
Pour moi, c'est un problème de moyens concrets qui ne sont pas déployés. Donc la ministre qui avait fait une loi, je vous rappelle, qui était censée être une immense loi qu'on a votée un 1er juillet, il y a un an, nous expliquant que c'était la loi du quinquennat contre les violences faites aux femmes. Un an plus tard, de quoi nous parle-t-on ? D'un Grenelle. Non mais pesons les mots. Un Grenelle, souvenez-vous, la dernière fois qu'il y a eu vraiment un Grenelle. Maintenant on fait des Grenelles pour tout, mais des Grenelles vides. En 68, quand il y a eu un Grenelle, on a augmenté le SMIC, on l'a fait exploser. Non, mais je veux dire, c'est considérable. Donc là, on a l'impression qu'il y a une inflation de communication, une inflation de mots pour masquer la réalité qui est une pénurie totale de moyens pour faire face à ces défis.
Renaud Delis.
Vous évoquiez justement, Clémentine Autain, la mobilisation autour de cette cause. Il y avait un rassemblement organisé hier sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris. Vous avez cité la comédienne Eva Darlan, qui est l'une des figures de proue de ce rassemblement. Elle a interpellé le gouvernement.
Vous passez de bonnes vacances, Monsieur Philippe, qui avait osé nous dire que vous ne connaissiez pas le problème et qu'il faudrait sûrement très longtemps pour changer les choses. Et excusez-moi, mais j'ai un autre rendez-vous. Savez-vous, Madame Chapa, combien de femmes sont mortes depuis votre annonce du Grenelle, alors que vous aviez tout en main pour que ça n'arrive pas ? Près de 25. Et pendant ce Grenelle, qui est une façon comme une autre de ne rien faire, des femmes et des enfants vont mourir.
Marlène Schiappa organise ce Grenelle des violences faites aux femmes la semaine prochaine. Vous n'en attendez rien, vous n'en espérez rien, Clémentine Autain ?
Écoutez, moi je veux bien espérer, j'aimerais qu'elle prenne ses responsabilités, que ce gouvernement agisse, mais je n'y crois pas.
Des moyens de l'argent, c'est quoi ? C'est 1 milliard d'euros ?
Écoutez, ça me paraît le minimum. Si vous voulez, le problème qu'on a, c'est que le budget aujourd'hui qui est consacré aux violences est totalement ridicule. 0,0, voilà, on en est là. 0,1% le budget consacré aux droits des femmes en France. C'est totalement ridicule, on ne peut rien faire avec ça. Et ce gouvernement, particulièrement Marlène Schiappa, est tout à fait spécialiste de faire des grandes annonces, de nous raconter qu'elle comprend tout à fait la situation, mais incapable, parce qu'il y a l'austérité budgétaire dans tous les domaines. Vous comprenez ? Et tant qu'on est dans ces clous de l'austérité, il n'y a pas de priorité digne de ce nom qui se dégage. Et donc voilà la difficulté devant laquelle on est. Et entendez la voix d'Eva Darlan qui porte, je veux dire, l'urgence à agir sur ces questions.
Clémentine Autain, c'est très probablement la centriste Sylvie Goulard qui représentera la France au sein de la prochaine Commission européenne. C'est le choix qu'a fait Emmanuel Macron hier. Est-ce que c'est un bon choix, vous semble-t-il ?
C'est un choix cohérent.
Avec quoi ?
Cohérent avec ce qu'est aujourd'hui l'Union européenne, son orientation, le monde qu'il représente et évidemment en creux le monde qu'il ne représente pas. Sylvie Goulard, moi j'ai un souvenir précis d'elle parce que j'ai débattu beaucoup avec elle au moment du traité constitutionnel européen quand il y a eu le référendum en 2005. Donc c'est une femme avec laquelle j'ai beaucoup débattu. Donc vous dire à quel point elle rentre dans les normes actuelles de cette logique de concurrence entre les peuples, de loi du marché totalement débridée qui a façonné, qui continue de façonner l'Union européenne, elle adhère profondément à ce modèle qui est un modèle ultra-libéral. Donc je pense qu'elle est, de ce point de vue, comme un poisson dans l'eau, et elle est peut-être comme un poisson dans l'eau aussi, parce que le monde dans lequel elle évolue, qui fait que elle a pu être parlementaire européenne et en plus, pendant plusieurs années, toucher, je crois, 10 000 euros par mois d'un think tank américain.
À but non lucratif, certes, et basé à Bruxelles.
Certes. Mais ce que je veux dire, c'est que ce cumul la place dans un monde qui est un monde très éloigné, me semble-t-il.
C'est-à-dire, c'est quoi ? C'est le monde de l'argent ?
Oui, c'est un monde, très bourgeois et très éloigné, je crois, de la réalité de millions d'Européens qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Et je trouve que le fait qu'elle n'ait pas pu être ministre en France au nom des affaires, etc., mais que quelque part,
mais
il y ait une forme
de... Mais même des affaires qui éclaboussent aussi, pour les mêmes raisons, ou presque, votre parti, elle avait été nommée au gouvernement, elle l'a quittée au bout d'un mois comme ministre des Armées.
Deux choses différentes. Oui. Hein, la question des emplois, c'est-à-dire de comment on emploie ses collaborateurs quand on est député, c'est pas la même chose que ce dont je vous parlais, qui est un certain niveau de vie et un certain besoin qui place dans les têtes.
Les affaires qui l'ont fait quitter le gouvernement sont les mêmes, soupçons, plus exactement, sont les mêmes que ceux qui pèsent au-dessus de la France, sur la France insoumise.
Oui, mais je suis en train de vous dire que c'est curieux qu'Emmanuel Macron ait pris une sanction de la sorte pour le gouvernement et que cette affaire, enfin cette
mais
affaire,
pour être précis,
la
dans
même
ce
présomption
dossier,
d'innocence, oui pardon Renaud.
Oui mais je veux dire, donc il y a un certain double langage, c'est tout ce que je veux dire.
Pour être très précis dans ce dossier, c'est soupçons d'emploi fictif qui pèse sur le MoDem. Sylvie Goulard est citée, mais elle n'est pas mise en examen, elle n'a pas même été entendue depuis plus de 2 ans qu'a commencé l'enquête.
Je vais même aller plus loin que vous, Renaud Dely, c'est que il faudrait qu'on ait un débat sur à quoi servent les collaborateurs parlementaires. Moi, je suis d'accord là, sur ce point-là, vraiment, avec ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Quand un collaborateur d'un député prépare une émission de télévision dans laquelle on va parler de choses qui ne sont pas directement liées aux affaires européennes, vous allez dire quoi ? C'est un emploi fictif ? Bon, quand il se déplace dans une manifestation parce qu'un député européen va dans une manifestation en France sur la question des retraites, est-ce qu'il est dans un emploi fictif ou est-ce que c'est
donc
normal qu'il accompagne son député ?
Donc cette enquête n'a pas gêné la nomination de Sylvie Goulard.
Donc je pense qu'il y a une question politique... une question politique sur la façon dont l'Union européenne considère les collaborateurs d'élus, c'est-à-dire il dépolitise la tâche des députés pour les enfermer dans un rôle qui serait un rôle uniquement technocratique.
Mais et pour ça, répondre à la question de
Renaud Dely, sur Sylvie Goulard tout à fait.
Mais pour répondre à sa question, c'est pas un boulet pour Sylvie Goulard cette affaire.
Non, ce que je veux dire, c'est que si le président de la République...
Puisque la France Insoumise vous explique depuis des années qu'il n'y a pas d'affaire.
Non, je m'amuse juste à dire que ce qui a été valable, c'est-à-dire à un moment donné, sanction très forte, c'est inadmissible, Sylvie Goulard ne peut pas être
elle
ministre en France
d'elle-même.
À cause de ça, mais par contre, il n'y a pas de problème pour l'être à l'échelle européenne.
Vous pensez qu'elle aurait pu rester ministre, en fait.
Non,
je dis juste qu'il y a
une sorte de fumisterie et que moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le fond des positions de Sylvie Goulard. Et de ce point de vue, je peux vous assurer qu'elle ne va pas détonner à l'échelle européenne. Malheureusement, et ces convictions écologistes, pour ma part, je ne les ai jamais vues dans un moment où c'est censé être une priorité internationale. Donc, je ne trouve pas ce choix, en tout cas, conforme aux priorités qui devraient être celles de l'implication de la France à l'échelle européenne. Et deuxièmement, je pense que Sylvie Goulard vit dans un monde qui est très éloigné de celui de la majorité des Français, cumulé. Franchement, des revenus quand on est à un tel niveau, quand on est députée européenne, ça dit un peu le monde dans lequel on vit et dans lequel on évolue aussi mentalement.
Clémentine Autain, vous restez avec nous. Dans une minute, on va vous demander si vous voterez la loi instaurant la PMA pour toutes les femmes. D'abord, le rappel de l'actualité. Il est 8h41. C'est Lauriane Delanoë qui vient de nous rejoindre.
Un quatrième match de football interrompu pour des chants et ou banderoles homophobes depuis le début de la saison en France. Nice-Marseille hier soir. Alors que la Ligue de football professionnelle prend une première sanction contre Nancy, une tribune fermée pour un match. Mais qu'est-ce qu'un chant homophobe ? Sur France Info, ce matin, le directeur général du Stade Brestois demande un lexique précis. Près de 90 000 malades de la rougeole en Europe depuis le début de l'année 2019. L'Organisation mondiale de la santé alerte, c'est plus que sur toute l'année dernière. Cette hausse des cas est une première en 7 ans. Le chef du parti travailliste parle d'une menace pour la démocratie. Les députés britanniques ne reprendront leurs travaux que mi-octobre, ce qui laissera 2 semaines pour valider ou non un accord de Brexit. Décision du Premier ministre Boris Johnson. Le pied à peine posé à terre, Greta Thunberg interpelle Donald Trump. Le président américain n'écoute pas la science, d'après la militante écologiste. La Suédoise de 16 ans arrivée hier soir à New York après 15 jours sur un voilier pour traverser l'Atlantique.
France Info. et tout est plus clair.
Le projet de loi sur la PMA pour toutes les femmes, qu'elles soient seules ou en couple, arrive l'Assemblée nationale. Là, c'est à mettre au crédit d'Emmanuel Macron.
Oui, enfin, c'est d'abord à mettre au crédit de toutes celles et ceux qui se battent depuis longtemps pour cette possibilité, pour ouvrir ce droit, bien sûr. Oui, mais comme souvent, vous savez, en 1975, quand on a obtenu la libéralisation de l'avortement, je ne dis pas que Simone Veil n'a pas été d'un très grand courage, notamment pour affronter l'Assemblée nationale et qu'elle y a sa part, mais vous savez bien que la loi sur l'avortement n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu d'immenses mobilisations.
Je dis ça parce qu'on a connu d'autres candidats devenus présidents dire qu'ils allaient faire la PMA et ne pas le faire une fois qu'ils étaient à l'Élysée. Je pense au président précédent.
Et ben voilà, mais moi c'est pour ça que
donc
je vous dis
bravo Emmanuel Macron de le faire.
Donc vous allez voter cette disposition. Donc vous allez la voter.
Oui, probablement. Nous allons apporter sans doute des amendements qui vont concerner les enjeux de remboursement. Je pense qu'on va avoir des débats éthiques importants et c'est important que ce débat ait lieu à l'Assemblée nationale dans le détail après de la loi. Mais sur le principe, cette ouverture est une belle nouvelle, bien sûr.
Pour faire avancer la cause de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, que vous citiez tout à l'heure, qui était notre invitée il y a quelques jours, va présenter un projet de loi l'année prochaine sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, l'émancipation économique des femmes. Et pour ce qui est de la parité en politique, elle souhaite, Marlène Schiappa, qu'on alourdisse les sanctions financières à l'endroit des formations politiques qui ne présentent pas suffisamment de femmes, qui ne respectent pas la parité.
Pourquoi
est-ce que vous êtes favorable?
Non, ça me fait rire parce que, comme jusqu'ici, c'était des pénalités sur lesquelles les partis pouvaient, d'une certaine manière, s'asseoir. Parce que l'UMP, en particulier, a été tout à fait formidable, n'a pas du tout respecté la parité.
Il y a des partis
qui préfèrent
accepté, payer.
Voilà, et qui a accepté de... En fait, c'est pas... On paye pas. Oui. C'est qu'on a un moins 10 ans.
Hein,
on est moins subventionné.
Moins subventionné.
Donc, pourquoi pas? Pourquoi
multiplié
pas
par 5, justement, cette diminution des subventions publiques.
Oui.
En l'occurrence, la France Insoumise, sur le quinquennat, va être privée comme ça d'1,8 million d'euros. La France Insoumise n'a pas présenté assez de femmes. Multiplié par 5, ça ferait 9 millions d'euros en moins pour la France Insoumise.
Je ne pense pas que nous ayons la palme là-dessus. Après.
Les Républicains ont effectivement davantage.
Oui, je pense.
Mais
je
ensuite,
pense quand
c'est
même
la France
Insoumise. Oui, enfin, il y a quand même une culture au sein de la France Insoumise. C'est pour ça que c'est un critère qui est très important, mais qui ne peut pas être le seul, hein, pour bien comprendre la façon dont les femmes peuvent être incluses dans ce monde politique. Mais je crois qu'on ne peut pas, en tout sujet, s'en tirer uniquement par de la sanction, par de la peine. Je pense qu'il faut davantage travailler sur les mécanismes qui aboutissent à ça.
Donc il ne faut pas alourdir les sanctions financières.
Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas alourdir. Je dis que la seule réponse ne peut pas être tout le temps d'alourdir et de faire de la sanction. C'est juste ça. C'est que à un moment donné, il faut aussi que ça devienne l'affaire des hommes politiques, que de comprendre qu'il y a un problème. Il y a un problème avec les femmes, mais pas seulement. La diversité des profils dans le monde politique, ça concerne évidemment les femmes. Nous sommes quand même la moitié de la population, mais pas seulement. On sait aussi qu'il y a une très grande homogénéité sociale, territoriale. Et donc, il faut lutter contre cela pour diversifier davantage le monde politique. Et que par ailleurs, la difficulté des femmes à entrer dans ce monde politique est le plafond de verre. Vous avez remarqué ce plafond de verre. Moi, j'ai été frappée l'année dernière de voir des femmes qui avaient accédé au premier plan jeter l'éponge. Je pense à Cécile Duflot, à Najat Vallaud-Belkacem, à Nathalie Kosciusko-Morizet. Ça fait beaucoup de monde. Donc, il y a bien un problème du pouvoir, de la façon dont il s'exerce. Et je pense qu'il faut qu'on mène ce travail-là. Moi, j'avais fait un colloque l'année dernière avec Libération sur le sujet. Sur ce qui coince d'une certaine manière. Et je pense que ça nous amène à penser aussi comment on peut déviriliser l'ensemble du monde politique. Il y a un peu de travail et ça nous ferait beaucoup de bien à tous.
Clémentine Autain, il y a une question qui divise votre parti des Insoumis depuis plusieurs mois, qui vient de ressurgir très récemment autour d'un mot. C'est le mot d'islamophobie. Oui. Je voudrais d'abord qu'on s'arrête quelques instants dessus et Chronodélie nous explique ce dernier épisode.
Cette polémique, elle a ressurgi le week-end dernier à l'occasion de l'organisation des amphis d'été justement de la France Insoumise. L'un des invités, le philosophe Henri Pénard-Huys, spécialiste de la laïcité, qui est l'auteur de nombreux ouvrages sur ce sujet, a prononcé une conférence à l'invitation de la France Insoumise, au cours de laquelle il a défini ce qu'était à ses yeux l'islamophobie. Je vous propose qu'on écoute un extrait de cette conférence. Henri Pénard-Huys.
Le racisme, c'est la mise en cause d'un peuple ou d'un homme ou d'une femme comme tel. Le racisme anti-musulman est un délit. La critique de l'islam, la critique du catholicisme, la critique de l'humanisme athée n'en est pas un. On a le droit d'être athéophobe, comme on a le droit d'être islamophobe, comme on a le droit d'être catophobe.
Cette phrase a été tronquée sur les réseaux sociaux. Certains ont gardé juste la formule « on a le droit d'être islamophobe ».
Résultat, et c'est là que je précise, pardon, qu'on a choisi de montrer un extrait sans coupure, hein, pour être bien clair. Oui.
Pour bien montrer la démonstration d'Henri Pénard-Ruiz, cette phrase donc elle suscite le trouble, des divisions au sein de la France insoumise. Cette démonstration, est-ce que vous l'approuvez ? Est-ce que vous comprenez la démonstration d'Henri Pénard-Ruiz ou est-ce qu'elle vous choque ?
Je ne partage pas la phrase sortie du contexte « on a le droit d'être islamophobe ». Je ne la partage pas du tout, et pour une raison simple, c'est que ce mot, islamophobie, désigne aujourd'hui le rejet des musulmans, dans le langage courant.
Des musulmans ou de l'islam ?
Des musulmans. Je pèse mes mots.
Henri Pénard-Ruiz distingue le racisme anti-musulman, qui est un délit, de l'islamophobie, qui est la critique de la religion.
Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il met dans le mot. J'ai un désaccord avec lui là-dessus, c'est-à-dire que le terme lui-même, islamophobie, aujourd'hui dans la société
étymologiquement,
française... Étymologiquement, si on va par là, c'est pas terrible, parce que phobie, ça veut dire peur.
La peur de l'islam.
Oui, la peur de l'islam. Quand on se revendique de l'héritage des Lumières, ce qui est mon cas, ce qui est le cas de Pénard-Ruiz, ce qui est le cas globalement de la France insoumise, je ne crois pas que le terme de peur soit tout à fait approprié pour une critique rationnelle d'une religion. Donc je trouve pas le mot.
Est-ce que pour vous, l'islamophobie est donc une forme de racisme?
Aujourd'hui,
selon cette définition que vous en faites.
Aujourd'hui, le terme désigne, par celles et ceux qui sont victimes, dans un contexte qui est particulier. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas une offensive de l'extrême droite qui vise à stigmatiser les musulmans et comme si on n'avait pas des polémiques du matin au soir contre une religion. C'est-à-dire que la critique des religions, bien sûr, mais on est dans un moment qui est un moment où il y a une focalisation sur une religion. Donc il faut faire très attention parce qu'on est sur un débat qui est un débat très épineux, très délicat.
Éminé, en partie.
Éminé, bien sûr.
Est-ce que votre définition, Clémentine Autain, elle n'a pas l'effet pervers d'assimiler les gens qui sont de culture musulmane à ceux qui pratiquent la religion? C'est-à-dire qu'on voit que si vous mettez sous ce terme d'islamophobie, vous le définissez comme étant un racisme, ce que vous venez de faire à l'instant, des gens qui, même s'ils ne sont pas pratiquants, même s'ils ne pratiquent pas l'islam, s'ils critiquent l'islam, eh bien vous les assimilez dans ce même terme.
Alors que le racisme anti-musulman... On n'est pas tout à fait d'accord. C'est que, justement, parfois, il y a... le problème, c'est que celui qui pratique ce rejet, qui va insulter, il le fait parfois contre des Arabes prétendus musulmans.
On peut le faire contre des textes ou des interprétations
de
textes.
Non, mais je parle pas des textes, je parle des gens. Je parle pas des textes, je parle des gens, les personnes.
Les textes, on peut les critiquer. Il n'y a pas de délit blasphème.
De grâce. Oui, bien sûr.
Et il faut le faire, même c'est sain de critiquer les textes religieux.
Vous vous rendez compte, notre famille politique, si on est issu d'un courant historique au long cours, où bien sûr que le droit de critiquer la religion n'est pas, enfin, je veux dire, ça fait partie de notre, j'allais dire, on n'a pas d'ADN, mais de notre histoire, de notre culture, de nos fondamentaux. Mais nous sommes dans un contexte social politique qui fait qu'il y a une extrême sensibilité et que ce mot islamophobie aujourd'hui est repris par celles et ceux qui sont victimes de racisme et qui dénoncent cette islamophobie. On peut pas utiliser les termes indépendamment de leur symbolique, de leur résonance aujourd'hui. Donc ce qui est regrettable, en effet, c'est que cette phrase ait été sortie comme telle, sans l'ensemble de la démonstration, mais il y aurait à dire sur l'ensemble de la démonstration, c'est pas le sujet, je vais pas polémiquer là sur l'ensemble de la démonstration, mais en tout cas, cette phrase sortie du contexte me paraît en effet inappropriée et elle a blessé et elle est incomprise d'une certaine manière, même du point de vue de ce qu'on veut raconter.
Clémentine Autain, députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, est avec nous pour quelques minutes encore. On va parler de Jean-Luc Mélenchon. Si vous voulez bien, dans quelques instants, vous nous direz si vous avez de ses nouvelles. Mais d'abord, l'actualité à 8h51 avec Lauriane Delanoë.
La sécheresse s'étend presque toute la France métropolitaine en vigilance. Seuls deux départements épargnés, les Côtes d'Armor et le Morbihan, des restrictions d'eau dans 87 départements. Les premières sanctions après l'interruption de matchs de football pour des chants homophobes entonnés par les supporters. Une tribune de Nancy restera vide, fermée pour un match. La Ligue de football professionnel devra aussi se prononcer sur la rencontre entre Nice et Marseille hier soir. Le jeu arrêté pendant 12 minutes à cause d'une banderole et de slogans. Le compteur grimpe, près d'1 200 000 signatures pour la pétition contre la suspension de la session du Parlement britannique. Avec cette décision, Boris Johnson, le Premier ministre, s'attire la colère de l'opposition et même de parlementaires dans son camp. Il redoute de ne pas avoir le temps de trouver un accord pour le Brexit. En Italie, l'ex-ministre de l'Intérieur fustige la coalition trouvée entre le mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate. D'après Matteo Salvini, 60 millions d'Italiens sont pris en otage par 100 parlementaires. Le président sortant du Conseil, Giuseppe Conte, rencontre le président de la République, Sergio Mattarella, dans moins d'une heure.
France Info. Et tout est plus clair.
Clémentine Autain, Jean-Luc Mélenchon n'était pas présent le week-end dernier à Toulouse lors du
rassemblement. Oui, vous avez remarqué.
Les Insoumis, ça ne m'a pas échappé. Vous voyez comme je suis particulièrement vigilant.
Non, mais je sens qu'il vous a manqué.
Quelle lecture politique il faut en faire? Et est-ce qu'il y en a une?
Bah, écoutez,
que le chef d'un parti ne soit pas là au rassemblement de son parti.
Moi, j'ai pas discuté là récemment avec Jean-Luc Mélenchon. J'avais discuté avec lui au mois de juillet. Et il anticipait déjà de partir assez longuement pour prendre du recul, digérer tout ce qui s'est passé. Je trouve ça sain. Normal, voilà.
C'est une prise de recul politique.
Non, c'est une prise de
Je reprends le mot, vous venez de prise de recul, j'ai rajouté politique.
Oui, prise de recul. D'abord, c'est un être humain, comme vous, comme moi, donc qui à un moment donné a besoin aussi de se reposer, de lire. Il a fait des conférences, en plus, c'est pas que reposer. Hein. Vous avez remarqué dans son voyage au Mexique qu'il a aussi rencontré beaucoup de monde. Et il avait cette opportunité de rencontrer Lula le 5 septembre, donc il a prolongé ce qui semble assez raisonnable. C'est aussi une façon de dire que la France insoumise peut tenir une université d'été sans Jean-Luc Mélenchon. Et voyez, l'université d'été s'est produite. Il y a eu de très nombreuses...
Il y a une vie sans Jean-Luc Mélenchon, voilà, chez les Insoumis.
Oui, il y a une vie...
La vie continue.
La vie est possible. Il n'est pas à tout instant, omniprésent. Et je pense que c'est... Voilà, c'est pas...
C'est une façon aussi de se préparer à l'après Mélenchon chez les Insoumis.
Je sais pas, je le dirais pas forcément comme ça.
Vous l'aviez fortement critiqué après l'échec des élections européennes et notamment la stratégie et l'incarnation personnelle.
C'est la stratégie que j'avais mis en cause.
Mais aussi, vous aviez aussi critiqué, on se souvient de l'épisode des perquisitions mouvementées et peut-être des difficultés que ça avait suscité au sein de la France Insoumise.
Alors, permettez-moi de préciser sur les perquisitions parce que...
Sur la réaction de Jean-Luc Mélenchon.
Oui, sur la réaction, mais enfin, il y avait quand même les perquisitions. Et sur ce plateau même...
Vous avez critiqué
même,
sa réaction.
Oui, j'ai d'abord soutenu la colère légitime des insoumis face à l'ampleur des perquisitions, comme si la France insoumise était un immense réseau de grand banditisme. Donc c'était quand même ça d'abord le problème. Après, à l'évidence, la réaction n'était pas la plus appropriée pour se faire entendre. C'est la seule critique que j'ai portée.
Jean-Luc Mélenchon et d'autres dirigeants de la France insoumise devront d'ailleurs passer en correctionnel le 19 septembre pour acte de rébellion. Vous allez soutenir Jean-Luc Mélenchon au tribunal ?
Probablement.
Vous irez.
Probablement, oui.
Oui. En l'occurrence, vous l'avez rappelé, Jean-Luc Mélenchon va rencontrer Lula, l'ancien président brésilien, qui est actuellement en détention au Brésil. Lui, il explique aussi, Jean-Luc Mélenchon, qu'il est victime, d'une certaine façon, d'une forme de persécution politico-judiciaire. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire un parallèle entre le sort de l'ancien président brésilien Lula et celui de Jean-Luc Mélenchon?
Pour ceux qui nous suivent à la radio et pas à la télévision, je précise que cela fait sourire en coin. Clémentine Autain, votre question.
Non.
Ah, si.
Ah, bon, alors comment vous allez interpréter mon...
Il y a la radio, il y a la télé, pardon, je dois...
La question, est-ce qu'on peut comparer? D'abord, c'est toujours très difficile de comparer parce que les régimes politiques ne sont pas les mêmes, les histoires ne sont pas les mêmes. Je ne connais pas le détail des faits de corruption qui sont imputés à Lula. À l'évidence, il y a quand même un peu un scandale là-bas, parce que s'il n'avait pas été mis en prison par celui-là même, qui d'ailleurs dirige aujourd'hui, sans doute que ce serait Lula qui présiderait. Donc, bon, c'est quand même très singulier. En France, on ne peut pas nier, je le disais à l'instant, qu'il y a quand même deux poids, deux mesures. Hein. Quand on regarde comment Benalla a été traité et quand on voit comment la France insoumise, avec toutes ses perquisitions, a été traitée, c'est vrai qu'il y a un sentiment de deux poids, deux mesures. À l'échelle planétaire...
Il y a une persécution à l'endroit de Jean-Luc Mélenchon ?
Je n'aime pas ce terme-là. Je dirais davantage de poids, de mesure. Qui choque dans le pays d'ailleurs,
mais de la part
ne vous
de
trompez
qui
pas. Hein.
D'un juge d'instruction, des policiers qui ont mené la perquisition, du gouvernement, de la ministre de la Justice.
Bah, d'abord, il y a toujours une inquiétude sur l'indépendance véritable de la justice dans ce type d'affaires. Moi, je ne mets pas en cause la justice en général. On est quand même en France, c'est pas bon. Mais il y a des connexions. On ne va pas être les plus naïfs de la planète. Il peut y avoir des connexions quand même. Vous voyez bien ce dont je parle. Des affaires qui vont très vite, des affaires qui vont moins vite, des sanctions qui semblent un peu parfois à géométrie variable. Et dans l'affaire Benalla, on a été quand même très nombreux à estimer que il y avait quand même un petit problème.
Il y a, il y a une enquête qui continue, il y a des poursuites, il est mis
en
examen, etc.
Oui, mais je ne dis pas qu'il n'y a rien. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas de justice en France. Je suis juste en train de vous dire qu'il peut y avoir du deux poids, deux mesures. Et c'est pourquoi vous me demandiez si je serais aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. C'est pas, en dépit de mes critiques, là où j'ai un point de soutien, c'est que je pense que la charge a été totalement disproportionnée. Et a totalement révulsé les personnes qui étaient. Enfin, faut voir hein, ce que ça a été. Bon, bref.
Et d'un mot pour conclure. Oui, pardon, Chantal, vous êtes venu d'une phrase.
Non, voilà.
Et vous serez donc là pour le soutenir à la fin du mois lors de.
Je vous ai dit dans quel état d'esprit. Voilà, quel était mon état d'esprit.
Merci, Clémentine. Merci.